VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi à Kinshasa. Bonjour, bienvenue en RDC. L'Église catholique a appelé la classe politique au respect absolu de la Constitution. L'appel de l'Église catholique intervient alors que doit s'ouvrir un dialogue national voulu par le président Joseph Kabila, et cela en vue des élections législatives et présidentielles prévues en 2016. Une grande partie de l'opposition dénonce cette initiative comme une manœuvre du chef de l'État congolais pour se maintenir au pouvoir. Le voyage du pape en République centrafricaine toujours d'actualité selon les autorités de Bangui. La visite du souverain pontife est prévue les 29 et 30 novembre, mais l'on craint déjà que l'insécurité dans la capitale de la RCA l'oblige à renoncer à la dernière minute si les risques de violence devenaient trop élevés. Le gouvernement centrafricain, lui, est formel. La sécurité du pape sera assurée. Écoutez les précisions du ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, Saïd Paginji.
La venue du pape a été annoncée au niveau officiellement que le pape va faire une tournée en Afrique avec le 29 et le 30 à Bangui, entre autres. Et donc, aujourd'hui, au niveau politique, nous sommes en train de voir avec les forces internationales, les forces de sécurité intérieure pour sécuriser le séjour du pape en RCA. Donc toutes les discussions sont prises au niveau national pour que le séjour du pape puisse se dérouler sans heurts. C'est une visite qui est très attendue. C'est le rendez-vous, l'ultime rendez-vous pour justement impulser la cohésion sociale entre musulmans et chrétiens. Et donc cette visite est encore d'actualité. Les autorités de la transition y tiennent et les conditions d'ordre sécuritaire seront améliorées pour que le séjour se passe dans de très bonnes conditions.
Le porte-parole du gouvernement centrafricain Dominique Saïd Paginji au micro de Pascaline Magalé. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution sur le Burundi. Le texte appelle au dialogue d'urgence entre le pouvoir et l'opposition. La résolution réaffirme que le Conseil a l'intention d'envisager des mesures supplémentaires contre les fauteurs de troubles, mais ne va pas jusqu'à parler explicitement de sanctions. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Alain Niamitoué, il est le ministre burundais des Affaires étrangères.
C'est un texte qu'il faut prendre dans le contexte des efforts des Nations Unies, de garder, si vous voulez, les choses dans la proportion. Si vous voyez le texte qu'il s'agit, c'est un texte qui a beaucoup évolué par rapport au texte qui avait été mis sur la table lundi soir. Lundi soir, le texte était beaucoup plus alarmiste et parlait de sanctions de manière beaucoup plus claire. Ici, le texte évoque des mesures additionnelles, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ce texte reconnaît en même temps la nécessité du dialogue, ce que nous avons toujours dit aussi, mais en accent important sur la commission de dialogue inter-burundais. Tout en reconnaissant les efforts du président Museveni, facilitateur de la communauté africaine, la résolution dit clairement qu'il est important de conduire le dialogue inter-burundais avec, je dis bien avec, la coordination du gouvernement du Burundi. Et aussi, ce qui constitue pour nous une réussite, c'est le fait que le texte ne nous impose pas de lieu de discussion.
Alain Niamitoué, ministre burundais des Affaires étrangères. Il est 13h03 à Bujumbura.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Niger, Mahamadou va rentrer samedi à Niamey où il risque d'être arrêté. L'opposant nigérien qui est candidat à la présidentielle de 2016 l'a lui-même annoncé hier sur une chaîne de télévision française. Il est exilé depuis un an en France en raison d'accusations de trafic de bébés. Si un dossier a été monté contre moi par mes adversaires, c'est le moment pour moi de me présenter devant les juges pour qu'ils disent où se trouve la vérité, a-t-il poursuivi. Les autorités nigériennes ont déjà averti qu'elles arrêteraient M. Amadou à son retour. Au sommet des leaders africains et européens à Malte, l'Union européenne a décidé de consacrer un programme d'aide d'environ 1,9 milliard de dollars aux causes profondes des migrations africaines. Ce programme porte sur la création d'emplois, l'amélioration des systèmes de santé et la prévention des conflits. Le président Macky Sall du Sénégal a jugé cette somme absolument insuffisante. Opinion partagée par son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou.
C'est pas suffisant. 1,8 milliard d'euros, c'est loin d'être suffisant. Les besoins sont énormes. C'est pour cela qu'on lance un appel à d'autres partenaires pour pour qu'il participe à la mise en place de ce fonds fiduciaire.
Au Nigeria, double triomphe pour la nouvelle ministre des Affaires féminines. L'avocate et sénatrice Aïcha Alassane de l'État de Taraba a décroché le poste de gouverneur de cet État de l'Est du pays à la suite d'une décision judiciaire. Le gouverneur sortant Deru Sichaku a interjeté appel. C'est la première femme à être élue à la tête d'un État depuis l'indépendance du Nigeria en 1960. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint Lucie Jomei Jibrin de l'Université libre de Lagos.
Tout le monde était content parce que même avant, on voulait qu'elle soit gouverneure. Mais seulement qu'il y a la politique et puis ce sont des gens qui s'opposent à une femme d'être élue comme gouverneure. Et ils ont amené le problème de religion. Elle est musulmane et puis Ishaku est chrétien. Et c'est là la politique. Oui, il était même à Kaduna. Il y avait un ancien général qui est venu pour insister pour qu'on l'élue. Que c'est lui qu'on doit élire, quoi. La raison pour laquelle on a annulé et puis on avait annoncé que c'est Aïcha qui doit être gouverneur. Parce qu'il ne s'est même pas présenté pour ce qu'on appelle les campagnes, quoi. Première campagne dans l'intérieur de sa partie même.
Les élections primaires au niveau de son parti.
Primaire, oui. Il n'est pas là. Il ne s'est même pas présenté.
Alors, l'affaire n'est pas encore complètement tranchée. Apparemment, le gouverneur sortant a saisi la Cour suprême du Nigeria.
Oui, il a fait l'appel parce qu'il y avait 3 points. On avait dit que son nom n'était même pas parmi les concurrents. Il n'est même pas dans cet état lorsqu'on est en train de faire la campagne. Quoi. Il n'était même pas là. On l'a imposé seulement sur l'état de Taraba. Seulement, c'est quelqu'un qui a de l'argent, il faisait des affaires. Il y avait un ancien général qui l'a supporté. Et il est parti pour insister. Comme c'est quelqu'un qui a une influence, quoi, à Taraba, l'ancien général. Il est parti, peut-être il leur a donné de l'argent, on ne sait pas. Mais c'est parce qu'ils sont en train de discuter à la justice. Et il n'était même pas parmi les concurrents. Comment on a fait pour l'élire qu'il soit le gouverneur?
Si la justice confirme Aïcha Alassane à la tête de l'État de Taraba, que va-t-elle faire de son poste de ministre?
Elle va laisser le portefeuille de ministre pour être gouverneur, parce que être gouverneur est plus grand qu'être ministre, parce que c'est elle qui contrôle l'État. Le ministre, il contrôle seulement une partie du gouvernement, mais elle va contrôler tout l'État. C'est elle qui va donner les dernières paroles, quoi, dans son État.
Lucie Jomei Jibrin de l'Université libre de Lagos. Le président américain Barack Obama a levé jeudi les sanctions imposées contre l'ex-homme fort du Liberia, Charles Taylor, qui purge au Royaume-Uni une peine de 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Dans une lettre au responsable du Congrès américain, le président Obama a expliqué que ces sanctions étaient désormais inutiles en raison de la condamnation de Charles Taylor et la capacité amoindrée de ses alliés pour saper les progrès du Liberia.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé aujourd'hui à Tunis pour participer à un dialogue stratégique visant à renforcer le partenariat politique, mais aussi économique avec la jeune démocratie tunisienne qui a accédé au statut d'allié majeur auprès de Washington après une conférence de presse en fin de matinée et une rencontre avec le président Béji Caïd Essebsi. Le chef de la diplomatie américaine va quitter la Tunisie pour l'Autriche où est programmée une réunion internationale sur la Syrie samedi. L'armée américaine a mené jeudi un raid aérien en Syrie qui visait spécifiquement Jihadi John, ce membre du groupe djihadiste État islamique qui était visible dans les vidéos dans lesquelles il exécutait des prisonniers. Les autorités américaines ont indiqué ne pas savoir si Mohamed Mwazi, de son vrai nom, avait été tué. Selon le Pentagone, le bombardement aérien a eu lieu à Raqqa, capitale de facto de l'organisation extrémiste dans le nord de la Syrie. Et puis, le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi en Birmanie a passé vendredi la barre qui lui permettait d'être majoritaire au sein du Parlement birman. Cela ouvre la voie à un changement politique majeur, historique même, en Birmanie. D'après les derniers résultats communiqués par la commission électorale, la Ligue nationale pour la démocratie a remporté 348 sièges et sera donc majoritaire malgré la présence d'un quart de députés militaires non élus. Vous écoutez VOA Afrique, nous sommes en fin de journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information sur vos stations, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque qui prendra donc la relève. À bientôt pour ma part.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.